Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Phil Labonté, animateur de radio, de télévision et également passionné d'audiovisuel, de vidéo. Bonjour Phil.
Bonjour, et je rajouterai chargé d'édition numérique, donc je travaille sur tout ce qui est réseaux sociaux, internet, pour la chaîne publique.
Très bien, on peut dire Guyane la première. Alors, la raison pour laquelle nous avons souhaité vous inviter, c'est que nous avons découvert il y a quelques mois sur les réseaux sociaux que votre petite fille était atteinte d'un cancer. Pourquoi vous avez souhaité en parler? Pourquoi vous avez souhaité publier cette information sur les réseaux sociaux?
Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de publier, de communiquer sur surtout la maladie. Mais là, c'était, en fait, j'étais pris au dépourvu et il fallait réagir rapidement. Et avec moi, j'ai des amis qui m'ont proposé de mettre en ligne une cagnotte et donc qui m'ont demandé de publier une vidéo, ce que j'ai pas fait tout de suite parce que c'est vrai que j'aime pas trop mettre les affaires de santé, surtout de ma fille, comme ça sur les réseaux. Mais en fait, mes amis m'ont convaincu, ils m'ont dit « Écoute, c'est pas pour toi, mais c'est pour ta fille, donc s'il te plaît, fais-le. » Et c'est vrai qu'à ce moment-là, financièrement parlant, c'était dur parce que partir du jour au lendemain en évacuation sanitaire pour sa fille, accompagner tout ça, c'était très difficile financièrement parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc c'est pour cela qu'on a décidé. J'ai dit « on » parce que c'est pas moi, c'est une équipe. On a décidé de mettre tout cela sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les Guyanais.
Elle a quel âge? Comment vous avez appris le diagnostic?
Alors, ma fille a eu 20 ans en avril sur son lit d'hôpital, là-bas à Paris. Donc on était au Kremlin-Bicêtre, le CHU Kremlin-Bicêtre. Comment on a su? En fait, ma fille était déjà malade depuis 2021. On a été avec elle à Kourou, à Cayenne. Au début, on lui a diagnostiqué une forme de lupus, suivie de la maladie de Gougerot-Chaugren. C'est une maladie qui touche un peu les visages, enfin tout. On lui a donné un traitement à Cayenne et à Kourou, mais on a vu que son état s'empirait de jour en jour, on dirait même chaque mois. Et on a décidé de revenir à l'hôpital de Cayenne, au service pneumologie. Et c'est là qu'ils ont découvert une autre maladie qu'on ne nous a pas qualifiée. Ils nous ont dit juste qu'elle était gravement malade. Mais ils n'osaient pas peut-être nous dire de quoi elle était malade. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à Paris, au service pneumologie du professeur Humbert, au Kremlin-Bicêtre, et c'est là qu'il nous annonce que ma fille est atteinte d'une hypertension artérielle pulmonaire, donc qui touche le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins, donc ce qui a créé un début de cancer. Donc c'était très grave, mais Dieu merci, elle s'en sort, elle a bien réagi au traitement.
La décision de l'accompagner à Paris, est-ce qu'elle était spontanée?
Oui, oui, je peux répondre que oui. Elle était spontanée parce que je me dis que je suis son papa. Et quoi de plus normal que d'accompagner sa fille, quel que soit l'enfant que j'aurais pu... quel que soit... Parce que j'ai quand même 8 enfants, donc quel que soit l'enfant qui était atteint d'une maladie, moi je me faisais un devoir vraiment d'accompagner mon enfant, et donc je l'ai accompagné sans réfléchir à mon travail, sans réfléchir aux moyens financiers, sans réfléchir à tout ça. Je suis parti, je l'ai accompagné, et je me suis dit au début, je l'accompagne jusqu'au bout. S'il faut que je reste un an ou deux, je resterai un an ou deux pour le traitement.
On n'a pas beaucoup vu la maman, elle était dans l'ombre.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'elle n'aime pas trop être mise en avant, mais en tout cas, elle était là, sa maman était là, la maman nous a accompagnés aussi. Je pense que dans le processus de guérison, la maman est aussi importante, voire même plus importante que le papa. C'est vrai qu'elle était là depuis le début jusqu'à la fin aussi. Elle a, j'ai vu ses pleurs, j'ai vu ses tristesses, j'ai vu des moments où on était très très mal. Parce que voir son enfant souffrir, et qu'on ne puisse rien faire, ben ça fait mal aussi. Donc oui, elle était là, elle était bel et bien présente jusqu'au bout aussi.
Vous êtes resté à Paris pendant toute la phase d'hospitalisation ?
Oui, nous sommes restés avec elle jusqu'au bout. Depuis le début, on n'est jamais parti, on n'est jamais revenu ici. Parce qu'on s'est dit que... c'est notre fille, donc on se doit d'être là, auprès d'elle. Parce que je ne me voyais pas, en fait, partir et laisser ma fille dans un hôpital, en train de souffrir, et que moi, je vienne ici, que la vie est belle, quoi. Non, pas du tout. Moi, je voulais rester pour ressentir ce que ma fille ressent aussi. Et je peux vous dire qu'en tant que papa, c'est une épreuve assez, voire même très, très difficile à vivre. Parce qu'à un moment, on ne peut rien faire lorsqu'on voit sa fille souffrir. On a envie de faire quelque chose, mais malheureusement, on est rien, en fait. On n'est rien et on ne peut rien faire. Mais la seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'être présent auprès d'elle, à ses côtés, et faire savoir que papa et maman et les frères et sœurs étaient là aussi. Les frères et sœurs en esprit, si vous voulez, parce que les frères et sœurs sont restés ici. Mais la famille était très, très solidaire aussi.
Combien de temps, finalement, êtes-vous resté à Paris ?
Lorsqu'on est parti, je pensais qu'on allait rester un mois. Finalement, on est resté 6 mois. 6 mois durant lesquels elle a eu son traitement, parce qu'elle a eu des séances de chimio. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Parce que quand on dit chimio, on entend le mot chimio, des fois on voit, on entend parler de ça, mais entre entendre, en entendre parler et le vivre, c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose de terrible à vivre. Et quand je vous dis ça, j'ai pratiquement beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses très très difficiles, des moments très difficiles. Et Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux.
6 mois à Paris, il faut trouver un logement, il faut se nourrir, d'où la question financière, qui n'a pas dû être simple. Pendant ces 6 mois, vous ne travailliez pas. Et c'est peut-être ce qui va justifier un appel à l'aide.
Exactement, parce que nous avons su qu'elle aurait eu donc des séances de chimio, donc il fallait rester le temps de ces séances et de ce traitement. Et donc là, franchement, je m'occupais de 2 foyers pratiquement, parce qu'il fallait m'occuper de ma fille là-bas, il fallait m'occuper de mes enfants ici aussi. Donc entre les crédits à payer, la vie financière continuait, en fait. Et toutes les personnes qui ont déjà vécu à Paris ou bien ailleurs savent que tout est payant. C'est pas comme ici, si on a faim, on n'a pas d'argent, on prend notre canne à pêche et on va pêcher et on mange, ou bien on va chasser et on mange. Non, là-bas, tout est payant, on paye tous les jours. Le loyer aussi était payant. Les deux premières semaines à l'hôtel, donc on a payé de nos poches. Heureusement que j'avais mon fils aussi qui était là-bas, qui nous a accueillis et qui nous a aidés aussi à être hébergés à l'hôtel. Et puis nous avons fait des recherches concernant l'hébergement des parents. Et nous avons retrouvé une maison des parents qui existait au sein même de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et nous avons eu une place. Et donc la deuxième semaine, nous avons aménagé, nous avons élu résidence à la maison des parents du Kremlin-Bicêtre. Et c'est là que commencent justement les séances de chimio, l'accompagnement de ma fille, les souffrances, des fois le blues aussi, parce qu'on est loin de chez nous, on est loin de nos enfants, on est loin de nos parents aussi. Mais bon, nous étions là pour une mission, une seule mission, c'était accompagner Marie-Jeanne, c'était d'être avec elle, tout simplement.
Cet appel à l'aide a été entendu par certains internautes, des particuliers, mais également des entreprises ou une entreprise en particulier.
C'est vrai que la Guyane, les Guyanais de Guyane et de l'Hexagone ont été très solidaires, et d'ailleurs j'en profite de votre antenne pour les remercier chaleureusement. Vous avez toute ma gratitude. Oui, on a eu des élans de solidarité, notamment avec la SOLAM qui a organisé une collecte, une vente, et puis à l'issue de cette vente, ils ont récolté 1700 euros qu'ils ont donné carrément à Marie-Jeanne, ce qui lui a permis d'ouvrir un compte, voilà, ce qui lui a permis aussi de... Parce qu'elle aussi, c'est une adulte, elle a 20 ans, elle a besoin d'être indépendante financièrement, donc ça l'a beaucoup aidée. Et en plus, la SOLAM, où elle avait fait 2-3 stages, et apparemment... les stages, enfin les moments qu'elle a passé avec eux, les ont marqués, notamment les responsables de la SOLAM. Vraiment merci. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier une association, l'association emmenée par Patrick Tienne de Kourou, qui aussi, avec la vente du bouillon Ouara à l'époque, a récolté pratiquement aussi 1500 euros qui étaient justement destinés à Marie-Tienne. Donc nous avons eu aussi l'aide de quelques élus, qui ont été très solidaires, mais franchement, je voudrais les remercier, puisque je ne peux pas les atteindre comme ça, mais à travers votre réseau, vos médias, donc j'en profite vraiment pour les remercier. Toutes les personnes, bien entendu, de près ou de loin, qui ont participé avec 1 euro, 2 euros, 20 euros, voire plus, eh bien, franchement, je vous remercie, parce que grâce à vous, grâce à eux, grâce à cette aide-là, nous avons pu tenir 6 mois, mais c'était comme si c'était compté, hein. 6 mois exactement, et puis... nous vous voici de retour avec Marie-Jeanne qui a le sourire aujourd'hui. C'est vrai que le traitement continue, mais elle va mieux par rapport à la première fois.
Donc là, elle est rentrée en Guyane. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'elle est tirée d'affaire ?
À 50%, on va dire. En tout cas, le plus gros a été fait. La chimio a été très bénéfique pour elle. Son corps n'a pas rejeté donc le traitement. Je parle là selon les médecins, mais le traitement continue pratiquement pendant toute sa vie, et elle devra retourner régulièrement à Paris pour faire un contrôle, donc toujours au CHU du Kremlin-Bicêtre. Donc elle doit y retourner l'année prochaine, et puis ainsi de suite. Voilà.
Et quel conseil vous pourriez donner aux parents qui nous regardent, qui nous écoutent, et qui pourrait se trouver face à de telles circonstances?
Quel conseil je pourrais aller? Aimez vos enfants, aimons nos enfants. Accompagnons-les, soyons courageux. C'est vrai que ce n'est pas facile. Comme vous me voyez ou comme vous m'entendrez, je suis un papa qui aime beaucoup mes enfants, en fait. Ma vie est vouée à mes enfants. Je travaille pour eux depuis qu'ils sont tout petits. Aujourd'hui, ils commencent à m'aider. Ils me font... Ils ont de la gratitude envers leur papa aussi. Mais quel que soit l'âge qu'ils auront, quand ils tombent malades, ce sera toujours... Ils resteront vos enfants, vos petits, comme si c'était des bébés. Parce que moi, j'aime profondément ma famille, et mes enfants sont... Mes plus grands trésors, c'est eux. Donc... lorsque vous vous retrouvez dans un cas pareil, je peux vous dire que vous avez envie d'être entouré, vous avez envie d'avoir le soutien des personnes, des amis. Des fois, les amis auxquels vous pensez, c'est pas eux qui vont vous aider, c'est d'autres personnes qui ne vous connaissent pas et qui ont pris cause justement pour ce qui vous arrive. Cela vraiment m'a fait grandir... mentalement, psychologiquement, on va dire spirituellement aussi, parce que ça a beaucoup joué. Donc les parents, les mamans, les papas, nos enfants restent quand même nos enfants. Donc c'est vrai que des fois c'est pas facile, hein. Moi, j'ai eu de la chance par rapport à certaines personnes, parce que j'ai rencontré aussi de la souffrance là-bas, d'autres parents qui y sont toujours d'ailleurs, qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir le soutien de la population guyanaise, mais comme j'aimerais que l'on fasse pour eux la même chose qu'on a fait pour moi. C'est vrai que je suis un homme de médias, tout le monde le sait. Certains diront que je me suis un peu servi des médias, pas du tout. Je me suis servi juste de l'apport de mes amis qui m'ont incité à le faire. Mais c'est vrai que j'ai pas dit non parce que c'était pour ma fille. Si on était dans un autre cas, par exemple, si c'était moi, je ne pense pas que j'aurais fait la même chose. Mais pour ma fille, j'aurais tout fait pour qu'elle soit bien, qu'elle soit guérie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est avec moi. Elle est de retour en Guyane avec un sourire qui est très beau à voir. Donc voilà, les parents, on reste des papas. Aimons nos enfants, mais franchement, aimons nos enfants jusqu'au bout, ne les laissant pas tomber.
Alors quand vous parlez, Phil Labonté, de souffrances auxquelles vous avez été confronté, sans trop s'étaler là-dessus, mais est-ce qu'on peut avoir quelques exemples peut-être, hein?
L'exemple auquel je pense, c'est le médecin qui m'appelle dans son bureau, qui nous appelle, la maman et moi, pour nous dire, Monsieur Labonté, vous avez bien fait de venir avec votre fille, parce que vous resteriez 2 jours de plus en Guyane, votre fille ne serait pas avec vous aujourd'hui. Donc c'était la mort assurée en fait, parce que le sang ne circulait plus sur son corps. Donc ma fille était devenue toute noire, mais vraiment comme s'il n'y avait plus rien à faire. Donc moi ça m'a retenu, ça a retenu mon attention, ça m'a marqué. Et ce jour-là j'ai versé des larmes parce que je lui ai dit... quand finalement elle revient de loin, finalement elle revient de très très loin. Et deuxième chose qui m'a marqué, c'est les séances de chimio. Lorsque vous voyez votre fille souffrir devant vous, avec des vomissements, mal au ventre, les articulations qui font mal, la tête qui chauffe, ce qui fait que les cheveux sont tombés. Donc c'est parce que la chimio était très 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 puissante, très forte. Une chimio qu'on appelle l'odoxan. Donc c'est là-bas que j'ai appris tout ça. Un doxan qui est un liquide genre jaune-rouge. Pour les personnes qui connaissent, ils sauront que c'est fort. C'est très puissant. Donc voir ma fille souffrir et que je ne puisse rien faire, juste... des fois la serrer dans mes bras et de la consoler, d'essayer de lui dire que tout ira bien en fait. Mais c'est vrai que ça fait mal. Et ça m'a retenu, ça a retenu mon attention.
Le fait que vous aviez fait le déplacement jusqu'en France, que vous soyez resté à ses côtés, est-ce que vous pensez que ça a pu jouer et que cela l'a aidé finalement à guérir, en tout cas accélérer sa guérison?
Je pense que c'est ça fait partie du processus de guérison. Parce que ne pas avoir quelqu'un à côté de soi, ne pas avoir un parent à côté de soi, c'est très difficile. Parce que des fois on se laisse mourir, on est triste. Donc psychologiquement ça joue beaucoup, je pense. Ça joue pour beaucoup. Donc la présence avec elle, des fois on riait. Même dans sa maladie, on continue à rire, on continue à se vectiver, mais gentiment, entre papa et fille. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé, justement. Parce que je pense aussi que si on n'était pas là, je ne sais pas si aujourd'hui elle serait de retour. Je ne sais pas si elle se serait battue. Parce qu'elle-même, elle nous disait, dans sa maladie, quand elle était souffrante, elle me disait, papa, t'inquiète pas, on retournera en Guyane et je serai encore plus forte. Et c'est vrai, elle l'a fait parce que je pense que la présence des parents était pour beaucoup dans son processus de guérison. Donc oui, c'est très important.
Alors Phil Labonté, c'est un père de famille de 8 enfants. Mais à côté de cela, c'est un homme passionné. Passionné des médias, passionné de l'audiovisuel, de la vidéo. Passionné de radio. Combien d'années de radio, Phil Labonté?
Combien d'années de radio? Moi, je pense au moins 20 ans, non 18 ans, quelque chose comme ça. Après, je me suis spécialisé dans la caméra, dans la réalisation. Ce que je fais aujourd'hui, donc je réalise des films documentaires, je réalise des portraits, des reportages. Je fais de tout avec une caméra, donc je me suis spécialisé dans ça depuis quelques années. Et aujourd'hui, je suis chargé d'édition numérique, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Internet, l'Internet de Guyane la Première. Et puis voilà, je fais plusieurs choses. Hein. Je me suis un peu spécialisé aussi dans l'image aérienne, les images aériennes avec les drones, donc je suis droniste aussi. Et puis voilà, je continue à travailler, je continue à faire mes vidéos, je continue à rencontrer des gens, puisque c'est ce que j'aime, on peut se rencontrer des gens. Je continue à apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours.
Parlez-nous de vos débuts à la radio.
Je débute en 94, c'était Radio Pagani, une radio qui n'existe plus aujourd'hui. Radio Pagani, une radio associative qui se trouvait à Macouria. Donc c'est là que j'ai commencé, sous l'égide à l'époque de Fortuné Mécène, qui était le président de l'association Radio Pagani. Et c'est lui qui, dans un casting, m'a repéré apparemment. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai gravi les échelons. Après, j'ai été appelé à Radio Guyane à l'époque, RFO. Et depuis, je suis là, j'ai fait de la radio, c'est vrai, j'ai fait de la télé aussi, et aujourd'hui je fais du numérique, donc j'ai vraiment touché à tout, j'ai même travaillé en rédaction, avec à l'époque la rédactrice en chef qui est, vous la connaissez en plus, Nadine Félix, donc j'ai travaillé avec elle en tant qu'assistant à la rédaction, voilà.
Donc au fil des années, vous cherchez à donner la meilleure version de vous-même en vous adaptant dans un secteur, un métier qui ne cesse d'évoluer.
Effectivement, si vous ne suivez pas, vous êtes lâché. C'est un métier qui évolue tout le temps. Vous croyez que vous êtes arrivé à quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est vrai que je me suis adapté et on se doit de s'adapter avec aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est que les jeunes sont pratiquement plus, comment on va dire, ils sont loin devant nous les jeunes en fait, parce qu'ils sont, vraiment, c'est une génération internet, c'est une génération réseaux sociaux, c'est une génération de geeks, donc ils savent beaucoup de choses, ils vont chercher l'information directement là où est la source. Par exemple, Mayuri Campus, s'ils veulent voir une de vos émissions, ils iront directement. Donc aujourd'hui, les jeunes sont très évolués concernant les réseaux sociaux et l'audiovisuel en général, mais niveau numérique. Donc oui, je m'adapte. Oui, j'apprends. Oui, j'évolue. D'ailleurs, il faut évoluer dans ce qu'on fait. Et on essaie de ne pas se faire lâcher comme dans un peloton. En fait, être dans une course, par exemple le Tour de Guyane, on ne lâche pas le peloton. Je suis comme ça aujourd'hui. Je suis dans le peloton et je ne lâche pas le peloton.
Tonton Joe, on a fêté samedi dernier ses 10 ans depuis sa disparition. Et Tonton Joe, que vous avez bien connu pour avoir collaboré avec lui pendant de longues années. Si vous deviez résumer, si toutefois c'était un exercice facile, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cet ancien collaborateur et cet ancien passionné de musique, de radio qui était, ou que fut, Tonton Joe?
Culture. C'est un homme de culture, c'est un homme qui aimait rencontrer les gens. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai eu cette passion-là aussi. Bon, grâce à lui, oui, mais il y a eu Jean-Claude Otinoué à l'époque de Radio Guyane, RFO, qui m'a mis dans le bain, puisqu'il m'avait repéré. Et il avait un plan bien précis dans sa tête, un projet bien précis, me concernant en tout cas. À l'époque, il voulait mettre les langues régionales en place, donc ce qu'il a réussi à faire. C'est comme ça que je suis rentré en radio en tant que chroniqueur au début. Après, j'ai été animateur. Et Tonton Joe, la rencontre, c'est la rencontre, je pense, de ma vie. Parce qu'avec lui, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture, sur le créole, sur les gens, comment faire une émission, comment aller rencontrer les gens, comment amadouer les grandes personnes, comment rentrer en conversation avec eux.
Oui, parce que vous avez eu à faire une émission sur les Guingamps.
Exactement, justement c'est suite à ma rencontre avec Tonton Joe, parce que en anecdote, à chaque fois qu'on partait en commune, Tonton Joe, me présentait aux anciens comme étant son héritier. C'était, oh là, pour moi c'était quelque chose. J'ai dit, héritier, t'entends Joe? Mais non, mais non. Il me dit, mais oui, mon petit frère, parce qu'il m'appelait comme ça, mais oui, mon petit frère, à tout qui prend ma place. Et il disait souvent à papa, parce qu'il y a un bateau coulé, qui ne peut pas naviguer, donc il parlait de lui en fait. Et il tenait absolument à ce que les personnes qu'il connaissait me connaissent aussi à leur tour, et qu'ils me prennent sous ses ailes. J'étais sous les ailes de t'entends Joe, parce qu'avec lui, j'ai...
C'était votre mentor?
C'était mon mentor, effectivement. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. C'est grâce à lui, si je suis connu dans les communes avec les anciens. C'est ben justement le titre de l'émission que j'ai créée. Ben, c'est avec lui qu'on a cherché le nom, hein. Palom Unupei. C'était avec lui, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom pour, d'émission pour illustrer tout ça. On était là, ben, Palom Unupei.
Alors aujourd'hui, vous êtes loin de l'antenne, loin des micros. Comment vivez-vous cette absence?
Au début, c'est que le micro, c'est comme de la drogue. Michel, tu me le confirmeras. C'est comme de la drogue, en fait. Au début, on est là, on a envie de parler dans le micro. Et quand on voit un micro, on veut parler tout de suite. Donc oui, c'est une vraie drogue, c'est une passion, en fait. Le micro est devenu pour moi mon ami. C'était un moyen de communication aussi, un moyen d'atteindre les gens, là où ils sont, c'est-à-dire dans leur maison, dans la cuisine, dans leur voiture aussi, et dans les communes isolées, donc on atteignait tout cela. Et le micro, l'animation, ben, c'est ça pour moi. Ben, c'était difficile aussi hein, de faire autre chose après, mais bon, je m'y suis habitué. Mais de temps en temps, quand je passe devant le studio, je me permets de rentrer pour aller juste discuter rapidement, mais c'était juste pour avoir le micro en fait.
Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien très intéressant. Quels sont vos projets, Fil la Bonté? On parlait tout à l'heure de formation, de remise en question, d'apprentissage. Qu'est-ce qui vous reste à apprendre ou qu'est-ce qui vous reste à découvrir?
Qu'est-ce qui me reste à découvrir? Le monde. Je veux découvrir le monde. En fait, mon plus grand... Maintenant que mes enfants sont plus grands, ma dernière a 14 ans, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie d'aller voir ailleurs, pas comme ça, mais bon, j'ai envie d'aller voir d'autres contrées, d'autres horizons pour découvrir, pour apprendre. Mon plus grand rêve, c'était de partir au Canada. Parce que c'est là qu'il y a le monde de l'audiovisuel, le cinéma et tout. J'ai envie de toucher au cinéma, j'ai envie de toucher au film documentaire, j'ai envie de créer. Mon plus grand projet d'ailleurs, c'est de réaliser un film documentaire. Un film documentaire vu par moi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, c'est d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent faire des reportages sur nous, et qui... C'est un reportage avec les yeux de la personne extérieure. Moi, j'aimerais bien que ça soit quelqu'un de chez nous. Quand je vois des films documentaires de chez nous, ça me fait plaisir, extrêmement plaisir. Et je me dis que moi aussi, un jour, je ferai mon film documentaire, je vais réaliser ce film-là. Et c'est un projet qui me tient à cœur, un projet à long terme, mais qu'il faudrait que je fasse, mais qu'il faut que je fasse de toutes les façons. Et je pense que c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc je continue à cogiter dans ma tête, à écrire surtout, et à montrer le meilleur de la Guyane, puisque souvent on montre que le côté négatif de la Guyane. Mais moi je voudrais montrer le côté positif, puisqu'il n'y a pas que les orpailleurs, il n'y a pas que les clandestins, il n'y a pas que les immigrés. Non, il y a aussi. Le jardin botanique, c'est beau. Il y a d'autres choses, il y a les villages, il y a les communes isolées qui ont des choses à nous apprendre aussi. Donc les gens dans les communes et tout ça, c'est quelque chose de formidable. J'aimerais mettre tout ça sur un support, peut-être cinéma, tiens. Mais ce sera quelque chose de positif, en tout cas pour la Guyane et pour moi aussi, avant tout.
Et puis pour finir, je ne peux m'empêcher d'évoquer le fait que vous incarniez quelque part la diversité guyanaise, puisque aussi, vous êtes aussi guyanais, voire plus guyanais qu'amérindien, mais quand l'occasion se présente, vous ne manquez pas de monter au créneau, puisque vous n'oubliez pas finalement d'où vous venez.
Oui,
ce qui fait peut-être votre force.
Je dis souvent que je viens avant tout de la Guyane. Je suis pro-guyanais. Tout le monde le sait que je suis pro-guyanais. Je n'oublie pas que je suis amérindien aussi. Je n'oublie pas que j'ai les trois cultures, ça veut dire créole, amérindien, bushnégué, et même je vais rajouter la Saint-Lucien aussi. Je rajoute ça parce que j'ai été élevé un peu aussi durant mon adolescence, mon enfance même, avec un parrain Saint-Lucien qui m'a beaucoup appris, notamment le travail, l'acharnement au travail, le sérieux. J'ai eu donc cette éducation-là, créole, Sainte-Lucienne, créole guyanaise, et puis mon côté amérindien aussi, je n'oublie pas. Donc pour moi, c'est une richesse avant tout. C'est une richesse et j'aimerais partager cette richesse-là avec tout le monde. Et je dis aux Guyanais, à qui veut l'entendre, que lorsqu'on dit « ça c'est moi, ça c'est Phil Labonté qui parle », lorsqu'on dit « autochtone », moi je considère que nous sommes tous des autochtones. Tous ceux qui sont nés ici, toutes les personnes qui aiment la Guyane et qui investissent en Guyane et qui mangent, qui dorment, qui fait tout pour la Guyane, moi je dis que c'est un autochtone aussi. Beaucoup d'entre mes frères amérindiens vont un peu ne pas être d'accord avec moi peut-être, mais moi, c'est ma façon de voir les choses, parce que je me dis qu'on est tous dans le même bateau et on doit faire de notre culturalité, une force, non pas quelque chose où on va se séparer, où on va diviser, non. Au contraire, moi j'appelle à l'union en fait, à l'union, quelle que soit la personne, vous êtes en Guyane, vous vivez en Guyane, vous mangez en Guyane, vous êtes Guyanais pour moi. Donc moi je ne fais pas de distinction, peut-être que d'autres le feront, mais pas moi. Donc quand je vois quelqu'un qui vit en Guyane, je dis que c'est un Guyanais, c'est tout, et puis le reste c'est que de la politique.
Merci beaucoup, Phil Labonté, d'avoir accordé cette interview à Radio Mayuri.
Merci Radio Mayuri, merci Michel de m'avoir invité, c'est un honneur, ce fut un honneur.
Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30. Puis rediffusé à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.